Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à cette nouvelle session d'enseignement d'études de la parole de Dieu sur le service en temps de défi. Bien content de, une fois de plus, pouvoir m'adresser à vous et pas m'adresser à vous, mais vite, mais avec la parole de Dieu, avec toute la richesse et toute la profondeur que nous avons dans sa grâce, dans sa parole. C'est une joie, encore une fois, de pouvoir partager avec vous ce moment. J'aurais bien aimé que ce soit dans un contexte différent, mais on sait tous qu'est-ce qu'on est en train de vivre et qu'on doit s'adapter. Mais on continue à servir, on continue à enseigner la parole, à l'annoncer, à la partager, à servir Dieu, à servir le peuple du mieux que nous pouvons. Alors, bien content de pouvoir être parmi vous virtuellement. Mais une chose est sûre, nous sommes tous assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Nous avons notre place dans la présence de Dieu. C'est peut-être quelque chose qui est un peu mystérieux, mais la parole de Dieu nous l'enseigne et nous le montre. Et c'est une joie de savoir que nous sommes membres d'une merveilleuse et grande famille qu'est l'Église. Donc, beaucoup de défis nous avons vécu jusqu'à maintenant. On continue à en vivre, à en voir, à y faire face, mais avec l'aide, nous allons de l'avant, avec grande gloire et de foi aussi grandissant. Alors, Dieu est bon, nous avons de belles choses à partager ce soir et j'espère de tout cœur que ce sera une bénédiction pour vous aussi. Donc, on va prier, on va mettre ce temps des mains du Seigneur. Et puis, par la suite, eh bien, on va faire la lecture. Ce soir, on va dans. On reste dans le chapitre 9, mais là, on passe à une autre étape, dans un autre passage de ce chapitre-là, du chapitre 9. Et on va voir par la suite qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Mais on va faire aussi un bref survol de ce que nous avons vu la semaine passée, comme on le fait d'habitude. Donc, prions. Seigneur, on te rend grâce pour. Tout Seigneur, on te rend grâce Seigneur parce que tu nous donnes la vie, parce que tu es la source de vie et que tu nous donnes la vie en abondance Seigneur. Nous te rendons grâce pour ton amour et ta miséricorde Seigneur parce que lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions Seigneur en difficulté, tu es toujours intervenu pour nous secourir, pour nous sauver, pour nous restaurer, pour nous délivrer Seigneur. Tout cela Seigneur avec un but précis, un but Seigneur de te servir. De servir, Seigneur, dans ces temps, de servir en temps de pandémie, de servir, Seigneur, en temps incertain, Père. Nous prions, Seigneur, que ta bonté, Seigneur, soit sur nous, que ta sagesse, Seigneur, soit sur nous, que tu puisses nous parler et nous instruire, Seigneur, et nous montrer davantage, Seigneur, les défis qui sont devant nous, et comment, Seigneur, d'après ta sagesse et ta volonté, Seigneur, nous devons mener, Seigneur. Ces défis-là, les surpasser en ton nom précieux, avec toi et en toi. Car tu es notre source de vie, Seigneur. Et Seigneur, séparés de toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, Père, parle-nous. Enseigne-nous et instruis-nous, Seigneur, davantage. Que nous puissions grandir dans la foi. Que nos yeux puissent être encore plus ouverts, Seigneur. Que ta lumière puisse encore plus illuminer nos cœurs. Nous avons prié dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Donc, allons dans Marc au chapitre 9. On va lire un verset, un passage, pardon, qui est quand même assez, un peu plus long de ce qu'on lit d'habitude, mais on va prendre quelques éléments dans le fond qui sont dans ce passage-là. Donc, Marc au chapitre 9 et à partir du verset 14 et avant de que je. Oups, avant que je puisse. Voyons, petite partie là. Donc voilà, je partage l'écran. Voilà, OK, on est là. Donc, Marc chapitre 9 à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, et il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd. Je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Et quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce là ne peut sortir que par la prière. Donc, quelques éléments que nous allons regarder dans ce passage. Mais juste avant, on va faire un bref survol de ce que nous avons vu la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons vu que à la Transfiguration, Jésus, à la fin de tout, Jésus est seul. Le seul scénario, le seul paysage que les disciples qui étaient avec Jésus à la montagne ont pu voir comme conclusion de toute la transfiguration et de tout ce qui est arrivé avec Élie, avec Moïse, avec la gloire de Dieu se manifester à ce moment-là, avec cette lumière, cette blancheur et cette nuée. Eh bien, c'est Jésus. Et on a dans le fond compris que l'important, c'est de garder notre regard sur Jésus, car en lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et tout ce qui est de Dieu a été réuni en Christ, de sorte qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul médiateur. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule source, et c'est le Seigneur Jésus. Mais nous avons vu que dans notre nature, il est souvent facile de détourner le regard, souvent facile d'être distrait par toutes sortes de choses et par des circonstances de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Une bonne nouvelle, une promotion au travail, par exemple, qui peut être vue comme une bonne nouvelle, on peut nous distraire. Et même chose, quelque chose, un événement ou des circonstances qui nous font avoir peur, qui nous font angoissés, qui nous font être inquiets. Et on a vu dans l'Ancien Testament, Dieu qui parle à Israël, qui lui dit, ne promène pas des regards inquiets. Donc, ne va pas de gauche à droite pour essayer de chercher une solution, parce que je suis ton Dieu. Et c'est un peu le même message à travers cette image-là que Dieu veut établir avec les disciples. Tu peux avoir beaucoup de choses autour de toi, des belles choses. Dieu peut être en train de se manifester puissamment, mais la base de tout, c'est Jésus. Et la parole nous exhorte à regarder justement Jésus. Il y a plusieurs versets qui nous parlent de ça. Et cette vérité-là, cette recommandation-là, ben, peut nous apporter certains défis parce que on peut regarder facilement les circonstances dans lesquelles nous vivons ou déjà essayer d'anticiper des circonstances, parce que nous sommes très bons à nous imaginer des scénarios lorsque les choses vont plus ou moins selon notre attente. Et à ce moment-là, on perd le focus. Et ça, c'est un défi que nous avons de ne pas perdre le focus aujourd'hui, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on entend dans les nouvelles. C'est très facile de perdre le focus sur Jésus. Et d'un peu se retrouver comme Pierre qui marche sur l'eau en direction de Jésus, mais qui soudainement se met à regarder les vagues et porte plus attention aux vagues et au vent, à la tempête, et oublie que c'est à Jésus qu'il doit regarder. Et il commence à sombrer, à couler. Ça nous apporte aussi un certain défi parce que ça mesure en quelque sorte et ça évalue notre maturité de foi et notre connaissance du Seigneur Jésus. Parce que Jésus, ben, il peut tout, il sait tout, il est partout et il est tout. Et à quelque part, je pense que on peut être amené à douter de cela, à douter que Jésus est capable, que Jésus tout seul est bien capable et a toute la capacité, a toute la puissance, a toute la sagesse et a toute l'amour envers nous pour répondre à notre besoin, pour répondre à notre prière. Et on oublie bien souvent que Jésus est allé jusqu'à la croix pour nous, est allé à la croix pour nous sauver, est allé à la croix pour prendre notre péché sur lui. Et cela, ça, on le croit. On croit la parole pour ça, mais bien des fois, dans d'autres circonstances de la vie, on ne croit pas. On a des doutes. Et bien souvent, ce que la parole nous dit de garder notre focus, bien ça amène ce genre de défi dans notre vie. Et c'est important de le savoir et de s'analyser, de demander à Dieu de sonder nos cœurs pour savoir, avons-nous cette réalité-là, là? Et je pense que la nature humaine est une nature qui doute. Et je pense que la réponse est oui. À certains moments, peut-être pas tout le temps, mais il y a peut-être des certaines occasions, oui, nous avons démontré du doute par rapport au Seigneur. Ce qui doit nous amener aussi à réaliser, c'est que peut-être le fait de douter nous montre que nous avons une compréhension de la grâce et de la foi qui est suffisante ou qui est erronée. Et que pour cela, nous avons besoin de connaître plus du Seigneur, de s'approcher plus de lui. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, Dieu est venu en Jésus-Christ pour nous sauver, pas pour nous perdre. Dieu est venu sur terre pour nous apporter le plus grand bien et de nous avoir auprès de lui. Donc, en partant de cette base-là, nous savons que tout le reste, Dieu va prendre soin de nous. Nous savons que pour tout le reste, Dieu est là, Dieu est présent, et nous ne sommes pas tout seuls. Et qu'en Jésus-Christ, nous avons la réponse. Donc, il est important de réaliser que Jésus-Christ est tout, et que nous sommes également complets en lui. Nous l'avons vu dans Colossiens. Je vous laisserai réécouter l'enseignement si vous voulez aller plus profondément dans la parole ou dans le sujet. Mais la parole dit que nous sommes complets en lui. Et ce qu'on doit réaliser aussi, c'est que nous parlons bien souvent de bénédiction, de ce que Dieu nous apporte, de ce que la foi nous apporte, de ce que la grâce nous apporte en termes de bénédiction, en termes d'avoir. Alors que le langage de la Bible, ce n'est pas un langage d'avoir, c'est un langage d'être transformé. Dieu, dans l'Ancien Testament, donnait la paix, donnait le salut, donnait la délivrance. Dans la Nouvelle Alliance, toutes ces choses-là sont venues en Jésus-Christ, qui fait que Jésus délivrance, donc. Une transformation. Donc toute personne qui vient à Christ est une personne qui va vivre une transformation. Et Dieu est plus intéressé dans une transformation que dans une bénédiction. Dieu est plus intéressé que nous devenions quelqu'un que plutôt que nous ayons un ensemble de bénédictions, que nous ayons un ensemble d'instruments ou de vertus de Dieu. Non, Dieu veut une transformation. Et c'est là que parfois le vocabulaire et même la pensée qui diffèrent parce que Dieu parle d'une chose et nous parlons d'une autre. Et donc, l'important de garder ça en tête. Le fait que Jésus soit seul également et qu'il n'y a pas eu rien d'autre, pas d'autres symboles, pas d'autres images, pas d'autres objets. Les disciples sont pas descendus avec un petit souvenir de la transfiguration qu'ils ont pu garder avec eux, puis qui par la suite pourraient dire, voici Jésus a touché lorsqu'il était transfiguré, il a touché ceci, alors ça porte la marque de Jésus. Vous imaginez ce que ça aurait pu amener comme déviation religieuse, comme interprétation libre et loufoque. De toutes sortes, dans le fond, parce qu'on le voit encore aujourd'hui, pour des petites choses, des grands mouvements sectaires ou religieux sont partis. Mais Dieu n'allait pas permettre que de nouvelles croyances, de nouvelles religions, que de nouvelles traditions viennent s'établir dans l'Église, au milieu de son peuple, au milieu de son projet qu'est l'Église, et que cela allait amener des distorsions, pardon, de cet événement-là. Jésus, les chapitres auparavant, était en train de faire un travail de délivrance et de nettoyage lorsqu'il parlait de la tradition, parlait des religions, parlait de ce qui aveuglait les gens. Et donc, il n'allait pas permettre aux disciples de retomber dans ça. Et les disciples l'ont bien compris, et c'est pour ça qu'ils font tellement de recommandations par la suite dans leurs épîtres face aux faux enseignements, face aux fausses doctrines. Face à tout ce qui est faux, qui ressemble un peu à l'Évangile, qui ressemble un peu à Jésus-Christ, mais que dans le fond est erroné et mensonge. Dans le fond, et ça doit nous encourager et nous exhorter, dans le fond, à tenir ferme devant les faussetés qui cherchent à nuire au plan de Dieu. Donc voilà, grosso modo, ce que nous avons parlé. La semaine dernière. Cette semaine, ben, on quitte la transfiguration. Pierre voulait rester dans cet événement-là. Peut-être que nous aussi. Mais non, malheureusement, cette semaine, on descend la montagne. Bien souvent, on parle beaucoup de monter la montagne, même dans les prédications, dans le sens spirituel des choses, on parle beaucoup de monter, mais on parle très peu de descendre. Et la compréhension des fois qu'on a, c'est que tu dois monter et tu dois rester en haut de la montagne. Mais tous les exemples que nous avons dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, oui, nous avons des événements qui nous enseignent, OK? Des choses profondes spirituelles par rapport à Dieu, dans l'ascension vers une montagne, pour arriver au sommet, pour avoir une expérience avec Dieu qui nous transforme. Mais à chaque fois, il y a une descente. Et trop souvent, on ne met pas non plus d'emphase là-dessus. On ne parle pas de descendre la montagne. Et je pense savoir un peu pourquoi. Parce que on aime monter, parce qu'on sait qu'on va vers quelque chose de glorieux, de précieux. Mais on ne veut pas quitter cela. On ne veut pas redescendre dans la vallée. On ne veut pas, surtout après une expérience avec Dieu, eh bien, on veut pas retourner à notre milieu. On ne veut pas retourner à notre routine parce qu'on est bien. On est bien dans la présence de Dieu. Ceux qui ont expérimenté, par exemple, les camps des hommes, si je peux prendre ça par exemple, ou les camps jeunesse, on veut rester là. On est bien là. On est dans la présence de Dieu. On est dans la communion avec le corps de Christ. On est bien. On veut rester là. Tourner, revenir à la maison, et après une expérience avec Dieu, de la parole, un temps de communion avec le Seigneur. Difficile à accepter. Difficile à accepter, je dirais, de revenir à notre milieu après une expérience avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on aimerait rester au sommet, là. On aimerait rester là en haut avec Dieu. C'est tellement bien, on est bien. La présence de Dieu, la paix, l'harmonie, Tout est parfait, tout est complet, on n'a besoin de rien d'autre. Et on ne veut pas revenir en bas dans la vallée pour faire face aux problèmes qui nous attendent, aux exigences, aux responsabilités, aux épreuves, aux sacrifices, aux services, aux autres. Non, on veut être bien là avec le Seigneur, dans sa présence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en ce qui touche notre service, le service à Dieu se fait autant au sommet de la montagne, lorsque nous sommes en prière, en adoration devant le Seigneur, dans sa présence, on est au service à Dieu, mais on sert Dieu aussi dans la vallée, lorsque nous descendons et servons l'Église, servons nos bien-aimés, et lorsque nous servons aussi le monde. Le service à Dieu, ce n'est pas juste au sommet de la montagne. Et bien souvent, c'est l'image qu'on se fait et c'est la vie qu'on se bâtit aussi. Une vie où est-ce que on peut juste servir Dieu au sommet de la montagne. On peut juste et on doit juste être au sommet de la montagne, jamais être en bas. Être en bas, c'est synonyme de manque de foi, de manque de consécration, de manque de... Manque de ça, et tout ça est faux. Ça met une fausse pression sur les gens de croire que constamment ils doivent être à ce niveau-là avec Dieu et que c'est juste là qu'ils doivent être, au sommet, et pas être dans la vallée, pas être au bas de la montagne et être au service. Et ça, cette descente, justement, lorsqu'on sait qu'on quitte, qu'on retourne, c'est pas facile. Il y a du monde qui le prennent plus ou moins bien. Et ça peut même être, jusqu'à un certain point, dangereux. Donc, de faire attention, justement, à la descente. Parce que bien souvent, parce qu'on a eu un moment, une expérience avec Dieu, on se sent bien et bizarrement, parfois même, on a cette fâcheuse habitude de baisser la garde. Et c'est là où est-ce que des fois, des pièges arrivent. J'ai déjà parlé plusieurs fois de l'ascension, de l'Himalaya. C'est quelque chose qui, pour moi, me fascine. Je pense pas, peut-être, un jour, je vais pouvoir le faire, je sais pas. Mais je me dis, c'est quand même une expérience assez, ou plutôt l'Everest, plutôt, ça c'est l'Himalaya, c'est autre chose, là. Mais l'Everest, la conquête de l'Everest, je pense que c'est quelque chose qui peut-être, bah, pour moi, représente quand même un grand accomplissement. Puis, bien souvent, on dit la descente est dangereuse, voire même mortelle, parce que elle nous permet de voir des dangers qu'on trouve pas présent dans l'ascension. Dans l'ascension, on pense à bien planifier le temps, de bien être équipé, d'avoir suffisamment d'oxygène pour aller jusqu'au sommet, d'avoir les codes, d'avoir le trajet, de tout être bien pour arriver jusqu'en haut. Et en haut, on reste pas longtemps, hein. Parce qu'il y a du trafic au sommet de l'Everest. Plusieurs équipes peuvent avoir bien souvent des centaines de personnes qui attendent leur tour pour arriver au sommet, ouvrir le champagne, célébrer un petit peu, prendre deux, trois photos et ils doivent ensuite revenir. Et donc, il y a une file d'attente qui se forme, il y a du trafic qui se forme au sommet de l'Everest. Et bien souvent, notre image arrête là. Mais faut descendre. Là, il y a un autre côté, là, le côté plate. Le côté qui est moins wow. C'est la descente. Et si on était concentré, si on devait rester focus dans la montée, ben, il faut l'être encore plus dans la descente. Et il y a eu plusieurs morts, plusieurs accidents, plusieurs événements déplorables lors de la descente parce que les gens se sont laissés aller à la fatigue, parce que les gens ont perdu le focus, parce que les gens ont été moins prudents Et ça doit nous enseigner que la descente parfois peut s'avérer dangereuse pour nous. Le fait de quitter, et comprenez-moi, on ne quitte pas la présence de Dieu, mais quitter ce moment d'importance peut parfois nous amener justement à peut-être prendre des décisions qui vont nous coûter, qui vont avoir des conséquences qu'on ne souhaitait pas. On le voit aussi dans la Bible, dans un exemple que aussi j'ai déjà eu à partager. Lorsque Moïse, qui est au désert avec Israël, va à la montagne et là pendant une quarantaine de jours, et Dieu lui parle, Dieu lui montre qu'il est dans la gloire de la présence de Dieu, il reçoit les instructions divines, il reçoit les tables, les 10 commandements que Dieu même écrit lui-même. Écoutez, il est dans une autre dimension, lui. Une autre dimension. Pendant 40 jours, dans la gloire de la présence de Dieu, avec Dieu face à face, incroyable. Et là, Dieu lui dit, Moïse, il faut que tu descendes, parce qu'il y a des choses qui se passent avec le peuple. Et là, Dieu lui dit, le peuple s'est détourné. Se sont créés un veau, sont dans l'idolâtrie, sont en train de commettre des péchés ignobles et d'abominations. Je vais les détruire. Je vais laisser aller ma colère, Dieu dit. Et là, Moïse dit, non, 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 Seigneur, non, s'il te plaît, fais pas agir ta colère. C'est pas bon, la colère. Et là, Moïse descend. Donc, Moïse quitte le sommet, quitte l'harmonie, quitte la perfection, quitte ce temps, ce lieu, cet espace tellement, tellement souhaitable pour tout le monde. Là où tout le monde veut être. Il doit quitter pour aller gérer des problèmes en bas. Et lorsqu'il arrive en bas, il se trouve devant le spectacle du veau d'or et du peuple en train de danser. Il est en train de célébrer, de faire la fête autour de ce veau d'or. Eh bien, il s'enflamme de colère. Remarquez une chose. Il dit à Dieu, Dieu, fâche-toi pas. Mais lui, quand il descend, il se fâche. Et au verset 19 du chapitre 32, on voit, et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses, et la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Dieu, à aucun moment donné, lui a dit, prends les tables et brise-les. Dieu lui a jamais donné d'instructions sur comment il devait gérer la chose. Pourtant, les 40 jours auparavant, Dieu lui donnait exactement les instructions sur comment est-ce que le peuple devait se conduire, comment est-ce que le peuple devait agir. Donc pendant 40 jours, Dieu lui parle, lui donne des instructions. Et là, Dieu lui dit, je vais faire ceci par rapport avec le péché de l'idolâtrie, je vais faire ceci. Et moi, il se dit, non, 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 non. En d'autres mots, non, je vais y aller. Et lui, quand il va, il se met en colère. Et il brise les tables. Il fait une série de choses. Et à la fin de la journée, il y a plusieurs milliers de morts. Mais rien de cela a été indiqué par Dieu. Les gens peuvent penser que Moïse était en train d'agir sous l'inspiration divine de Dieu, que Moïse était en train d'agir sous la sagesse parfaite de Dieu à ce moment-là. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que Moïse agissait selon son propre chef, poussé par sa propre colère, et que le résultat a été triste parce qu'il y a eu des morts. Et on ne nous dit pas que ceux qui ont adoré, que ceux qui ont participé, que ceux qui ont été les instigateurs de cette adoration sont morts. On nous dit juste qu'il y a eu des morts. Parce que s'il y aurait eu justice à ce moment-là, s'il y avait eu justice à ce moment-là, Aaron serait mort. Aaron aurait dû mourir. Il aurait dû être un des premiers. Pourtant, il n'est pas mort. Donc, où est la justice de Dieu là-dedans? Et il y a un verset qui nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, moi, j'ai tendance à croire que la réaction de Moïse était plutôt d'un gars qui, en bon québécois, a pété sa coche. Et que les actions qui ont suivi ont juste découlé de cette colère-là. Et n'ont pas découlé d'une justice et d'une sagesse provenant de Dieu. Et vous savez quoi? C'est normal, humainement parlant, de descendre d'un sommet avec Dieu, de revenir vers la réalité terrestre et d'avoir des sentiments négatifs, dont la colère. Parce que la descente de la montagne peut causer de l'impatience, de l'irritabilité et de la colère. C'est normal, on était au meilleur endroit, on était au summum, là où il n'y a plus de problèmes, là où il n'y a plus de douleur, ni de souffrance, de difficulté. Et on doit quitter ce moment-là, on doit quitter cette atmosphère-là pour aller gérer des problèmes. Je pense que personne serait joyeux de le faire. Personne, je pense, serait content d'y aller. Et donc, oui, descendre la montagne peut provoquer ou causer de l'impatience, de l'irritabilité et de la colère. Dans la vallée maintenant. Jésus descend la montagne pour se retrouver devant un spectacle, si on peut dire. Bon, heureusement, c'était pas les disciples qui dansaient autour d'un veau. Mais il s'est quand même retrouvé dans un environnement que je dirais pas agréable. Et vous allez voir pourquoi. Si on décortique un petit peu l'événement, la Bible nous dit qu'il y a une discussion. Le terme grec pour le mot discussion parle de dispute. Donc, c'était une discussion qui est animée, là. Okay? C'est pas juste on prend un café puis on jase, là. Non, non, non. C'était vraiment une dispute. Et avec les scribes qui sont tellement stricts et qui sont vite pour porter des accusations, bien on peut facilement imaginer que la discussion n'était pas une discussion agréable entre les disciples et les scribes. Et donc, une situation de conflit. Jésus quitte ce moment, ce sommet, cette expérience glorieuse pour revenir et pour aller dans une situation où est-ce qu'il y a du conflit. On retrouve un enfant possédé d'un esprit qui le fait souffrir. Et on retrouve un enfant dans une grande détresse. Et une chose est voir un adulte souffrir. Une autre chose, c'est voir un enfant souffrir. Je dis pas qu'on a moins de compassion, non, mais dans notre image, à nous, un enfant, ça doit rire, un enfant doit courir, un enfant, c'est innocent, un enfant, c'est les yeux qui brillent. Puis là, on voit un enfant dans une très grande, mais très grande détresse. Ça frappe. Ça frappe n'importe qui. Ça vient chercher n'importe qui. N'importe qui, ça vient frapper. Même la personne la moins expressive au niveau des sentiments, ça vient faire quelque chose lorsqu'on voit un enfant dans la détresse, donc situation de grande souffrance. Avec cet enfant, il y a un père qui est désespéré, un père qui prie ou qui se tourne vers les disciples en cherchant de l'aide, en essayant de chercher une solution, et il ne sait plus quoi faire. Une situation d'angoisse pour un père de famille. Et puis, il y a une multitude de curieux. Et vous savez, qu'est-ce que ça apporte, les curieux? La foule, ça apporte du jugement. Ça apporte du critique, ah, de la murmurade. Ça apporte des opinions. Puis là, ça dit ci, ça dit ça. Ça parle de toi et ça parle pas nécessairement de toi d'une belle façon. Mais le pire dans tout ça, en fait, le conflit, la souffrance, l'angoisse, le jugement, c'est pas la pire chose que Jésus a constatée. Ce que Jésus a constaté, et qui est dans le fond la cerise sur un sundae que personne ne veut manger, c'est l'incrédulité. Maintenant, vous êtes dans la présence de Dieu. Vous êtes dans la gloire, vous êtes en train de vivre quelque chose de merveilleux, de vivre un sommet avec Dieu. Et puis là, vous devez redescendre et vous retrouver avec ça. Avec du conflit, de la souffrance, de l'angoisse, du jugement et de l'incrédulité. Je ne sais pas vous, mais moi, je remonte. Moi, je ne serais pas content de quitter la présence, l'expérience de la présence de Dieu pour devoir gérer du conflit, devoir faire face à la souffrance, regarder l'angoisse, être la mire de jugement et travailler, servir dans un monde qui est incrédule. Voyez pourquoi la descente est pas facile. Elle est pas facile. Et elle peut être dangereuse aussi dans ce qu'elle peut susciter en nous, dans ce qu'elle peut amener comme réaction. Et il y en aurait trois. La première, c'est la réaction, la décision d'éviter. Oui, de descendre, mais de faire tout ce qui est possible pour éviter de servir dans cette situation-là, pour éviter de s'occuper de ça. Et donc, de devenir un professionnel de l'évitement. Et des gens, des religieux, des gens qui vivent plus dans la religion, dans la tradition, sont très bons pour éviter. Parce qu'ils se disent, ben moi, je suis saint, ma condition, elle est pure. Pourquoi est-ce que, tu sais, je vais aller me contaminer avec ces gens-là? Ah, ces gens-là ne croient pas, ou ces gens-là ont un style de vie, ou c'est à cause de leurs péchés qu'ils sont dans cette situation-là. Moi, je ne veux pas faire affaire avec ces gens-là. Moi, je veux juste être avec les gens qui sont comme moi, qui sont purs comme moi, qui sont spirituels comme moi. Donc, on fait de l'évitement. Et le religieux est un expert. Est un expert dans l'évitement. Un peu comme les disciples lors de la multiplication des pains que nous avons vu lorsqu'ils ont, ils ont vu, ils ont commencé à voir que oh, le soleil va bientôt se coucher. Puis là, ils ont dit à Jésus, Jésus, renvoie-les, que ce soit le problème de d'autres mondes, que ce ne soit pas notre problème, qu'on n'ait pas à s'occuper de ces gens-là, mais que ce soit le problème de d'autres mondes. Ça, c'est faire de l'évitement. Et on est très bon là-dedans, nature humaine. L'autre, c'est... C'est un peu comme Moïse a fait. C'est un bon Québécois, sauter sa coche ou péter sa coche. C'est-à-dire, c'est agir avec colère. Là. partir sur un élan de colère et rentrer dans le tas. Jésus aurait pu faire ça, là. Il aurait pu rentrer dans le tas puis détruire tout, y compris les gens dans le besoin. Et la colère, n'oublions pas, la colère n'accomplit jamais la justice de Dieu. Donc, y aller avec colère dans une situation ne va pas amener les fruits espérés pour Dieu, ne va pas glorifier Dieu, ne va pas bénir le Seigneur, ne va pas honorer le Seigneur. Et combien de fois des bien-aimés, des gens nous ont vus quitter l'église et rentrer à la maison, ils ont vu des monstres. Combien de fois les gens ont vu des réactions de chez nous, ils ont dit, mais pourtant, tu sors pas de l'église, toi? Tu viens pas d'un camp? Comment ça se fait que tu agis comme ça dans telle situation? Il n'est pas facile, la descente. Mais elle est nécessaire. L'autre réaction, l'autre décision, servir avec foi et amour. Je vous dirais, la troisième, c'est la plus difficile à cause de notre nature. Et que les deux autres sont très faciles. Et la plupart du temps, c'est là où est-ce que nous positionnons. Mais avec la grâce de Dieu, dans ces enseignements que nous parlons sur le service, ma prière est ce que nous puissions prendre la bonne décision, avoir la bonne réaction et la bonne attitude aussi par rapport à ce monde dans lequel nous vivons. Parce que nous vivons dans un monde qui est incrédule. Cette définition d'incrédulité, c'est l'absence de foi, scepticisme. Ça correspond parfaitement au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et Jésus leur dit, « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Pour Jésus, la pire des choses, qui rendait le scénario tellement triste et tellement laid, en quelque sorte aussi, était le manque de foi, et pas le manque de foi juste pour... Il ne parlait pas juste au Père, il ne parlait pas juste à l'enfant, il parlait à tout le monde, il parlait aux disciples, il parlait aux scribes, il parlait à la foule, il dit à tout le monde, génération incrédule. Lorsqu'il dit race incrédule, il parle de la génération, des temps, des gens qui vivaient dans ce temps-là, qui étaient là présents à ce moment-là. Il dit, génération, c'est une génération incrédule, vous manquez de foi. On sent que Jésus s'impatiente un peu. Heureusement, il n'a pas laissé agir la colère à ce moment-là, mais on sent qu'il y a eu une petite note d'impatience. Disons, il n'était pas content. Puis il l'a fait savoir qu'il n'était pas content de la situation. Et ça doit nous amener à réaliser quelque chose, c'est que oui, c'est pas facile descendre la montagne parce que c'est un choc. Qu'après avoir été dans un sommet avec Dieu, c'est un choc de devoir retourner dans un monde sans foi. C'est pas facile. Mais c'est nécessaire. Et c'est la réalité, dans le fond. Parce que d'un côté, on a apporté de la gloire, enfin, on est complet. On est bien. Et là, on se retrouve dans la laideur, dans la répugnance d'un monde ruiné par le péché, et qu'en plus, est incrédule. D'un monde qui est en conflit, d'un monde qui est en souffrance, d'un monde qui est en angoisse. De monde qui est porteur de jugement. De monde qui est incrédule. Je veux dire, c'est un choc. C'est un choc de y représenter Jésus dans ce monde-là. Mais comme je disais, Lorsque Jésus leur dit, race incrédule, il parle pas juste à la foule, il parle pas au Père seulement. Sinon, il aurait dit, homme incrédule. Il parle pas juste au Père, il parle à tout le monde, y compris les disciples. Pourquoi? Parce qu'il y a un message aussi pour les disciples. Et il y a un message pour nous aussi par rapport à l'incrédulité. Parce que combien de fois nous sortons de la présence de Dieu, nous nous sentons bien, nous sentons que nous sommes parfaits, que nous sommes complets, que tout est beau. Et là, on voit le monde. On voit le péché dans le monde. On voit la souffrance dans le monde. On voit le conflit dans le monde. On voit l'angoisse dans le monde. Et le niveau de méchanceté dans le monde. Et on se dit, ce monde-là va pas changer. On voit des choses tellement loin de ce qui représente la grâce, la foi de Dieu, et on se dit, ces gens-là vont jamais venir au Seigneur. Ça servira à rien. Et parce qu'on part et on dit ces paroles ou on pense de cette façon-là, ben, soit qu'on fait rien, soit qu'on ne sert pas cette personne-là, ou soit qu'on ne le fait pas avec un cœur qui honore le Seigneur. Et donc le message pour les disciples aussi, c'est que quand on refuse de servir quelqu'un ou qu'on sert de mauvais cœur, sous la base de l'argument, du faux argument, que ça servira à rien, que le monde va pas changer, eh bien déjà là, on est incrédule. Là même, on manque de foi. Et on est nullement différent au reste du monde qui n'a pas de foi. Aux yeux de Dieu, on est cette race d'incrédules aussi. Parce qu'avant même d'avoir servi, avant même d'avoir posé une action, on ne croit pas. On ne croit pas que Jésus peut changer. On ne croit pas que Jésus peut changer le cœur des gens. On ne croit pas que Jésus peut sauver cette personne. On ne croit pas que Jésus peut délivrer ou transformer. Et bien des fois, on fait des choses juste pour dire, ben, je dois le faire. Non. Oh, parce que je suis pasteur, je dois le faire. Oh, parce que je suis chrétien. Ça, c'est pas l'attitude à avoir. Que le Seigneur de servir avec un cœur qui honore Dieu, c'est comme être un incrédule, c'est comme manquer de foi. Ça, c'est du péché. C'est, disons, avant même le départ, se dire à soi-même, je vais pas. C'est-à-dire, je n'emporterai pas où je suis. Si tu dis que tu vas échouer, tu vas échouer. Si tu penses que tu vas que ça va pas marcher, ça va pas marcher. Et combien de fois dans les services et dans les choses avec Dieu, on échoue avant même d'avoir commencé. On fait naufrage avant même de se lancer parce qu'on a une pensée défaitiste. Parce qu'on est pessimiste, parce qu'on est incrédule, parce qu'on se dit ce monde va jamais changer, parce qu'on se dit cette société va jamais changer. Donc ce message d'incrédulité, cet avertissement ou cette plainte que fait le Seigneur, c'est pas juste envers les gens du monde, c'est aussi envers les gens dans l'Église qui manquent de foi bien souvent, qui manquent de foi par rapport à ce que Dieu veut faire dans ce monde, par rapport à ce que Dieu veut faire dans cette pandémie. Dieu a été réduit dans son champ d'action. Dieu n'a pas été réduit dans sa puissance, n'a pas été réduit dans sa grâce, dans sa sagesse à cause du confinement. Loin de là. Mais si nous disons, ah, ah non, si, ah non, ça. Alors, avec quelle attitude venons-nous? Avec quelle attitude servons-nous? Faisons bien attention, bien-aimés. Gardons notre cœur droit devant Dieu. Pas perdre notre temps et perdre le temps de Dieu et perdre le temps de bien du monde. Pas, je le fais, mais dans le fond, je suis pas convaincu. Non. Je le fais par obligation. Non. Tu le fais pas par obligation. Tu le fais par amour et tu le fais par foi. Parce que tu as la foi et parce que tu as l'amour, tu le fais. Je le fais parce que j'ai la foi et j'ai l'amour. Parce que j'ai l'obligation de le faire. Donc, changeons d'attitude. Faisons attention avec cette position-là, comment nous faisons les choses. Défaitiste. Nous sommes une nouvelle vision du monde. Nous devons apporter la paix à ceux qui doivent apporter et nous sommes enfin dans la crédibilité. C'est nous qui devons la. Là, je m'excuse, je ne sais pas s'il y a eu un petit quelque chose avec l'enregistrement. Je vais juste essayer de partager l'écran, ce ne sera pas bien long. Donc, le développement de la foi. Comment est-ce qu'on développe la foi alors? Comment est-ce qu'on amène la foi? Comment est-ce que je dois, dans le fond, servir ou avec quelle attitude je dois descendre de la montagne? Bien, deux versets. Jacques 1, 3 nous dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et deux, dans 2 Pierre 1, 5 à 8, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre votre foi à la vertu la science, à la tempérance, à l'appel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stiles, pour la connaissance de notre Seigneur. On doit produire des choses en nous. Pour dire la patience, la foi amène la tempérance, la fraternelle, la piété, la tempérance qui veut dire le contrôle de soi. Bref, il y a beaucoup de fruits qui est entendu de la foi. La foi ne reste pas juste foi. Elle se développe en nous, dans un caractère. La foi, la vraie foi, celle qui est vivante, vient changer notre caractère et l'approcher de plus en plus au caractère de Jésus-Christ. Mais ce qu'on doit comprendre ici, c'est que dans le sommet que nous avons avec Dieu, c'est comme on l'avait vu il y a quelques semaines en arrière, c'est pour nous encourager, c'est pour nous pousser encore plus servir Dieu. C'est pour nous encourager à aller de l'avant. Donc, c'est pour fortifier notre foi. Les moments que tu as avec Dieu, c'est pour fortifier ta foi. Pour que ta foi puisse se développer. Mais elle va se développer où, cette foi-là? Est-ce qu'elle se développe au sommet? Est-ce que c'est au sommet de la montagne que la foi produit la patience? Est-ce que c'est au sommet de la montagne avec Dieu que la foi voir venir la vertu et que la connaissance, le contrôle de soi, et que la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité viennent à se développer. Non. C'est pas au sommet de la montagne que la foi doit porter du fruit. La foi doit produire du fruit dans la vallée. Donc la foi que nous obtenons au sommet avec Dieu, elle doit produire du fruit dans la vallée. Parce que la patience, la vertu, la tempérance, la piété, l'amour fraternel, la charité sont inutiles au sommet avec Dieu. Elles n'ont aucune utilité. Mais elles ont toute leur utilité et toute leur importance lorsque nous descendons, lorsque nous allons dans ce monde en conflit, de ce monde en souffrance, de ce monde en angoisse, de ce monde porteur de jugement, de ce monde incrédule. C'est là où est-ce que notre foi doit être mise à contribution et qu'elle doit se développer dans un caractère qui honore Christ. Et pour servir un monde en conflit, en souffrance, un monde angoissé, un monde critiqueur ou porteur de jugement, on a besoin de beaucoup de foi. Pour un monde incrédule, notre réponse est la foi. Pour un monde en conflit, notre réponse est la paix de Dieu. Pour un monde en souffrance, notre réponse c'est la justice et l'amour. Pour un monde angoissé, notre réponse c'est l'espoir et l'espérance en Jésus-Christ. Pour un monde critiqueur et porteur de jugement, notre espoir c'est la compassion, c'est l'humilité, c'est le pardon. Pour un monde incrédule, notre réponse doit être la foi. Et pas juste la foi, beaucoup de foi. Et beaucoup de ce qu'elle doit développer en chacun de nous. Donc, en résumé, le fait de revenir à notre milieu après une expérience avec Dieu peut être difficile. Descendre de la montagne peut causer de l'impatience, de l'irritabilité et de la colère. Et on voit que Jésus descend de la montagne pour se retrouver devant une scène de mauvais goût. Conflit, souffrance, l'angoisse et l'incrédulité, c'est ce qu'il retrouve. Et à ce moment-là, nous, en tant qu'êtres humains, on peut prendre la mauvaise décision. Il y a trois grands axes. On peut faire de l'évitement, on peut faire de la colère, on peut agir selon la colère, et on peut servir avec foi, avec amour. Et Jésus fait ressortir l'incrédulité de tout ce qui se passe dans cet événement-là, fait ressortir l'incrédulité. Et le manque de foi est la source de tous les problèmes dans le monde aujourd'hui. Le fait qu'il y a l'incrédulité fait en sorte qu'aujourd'hui ce monde est un monde en conflit, en souffrance, en angoisse. Et c'est un choc, le plus grand choc dans le fond après un sommet avec Dieu, c'est de se retrouver dans un environnement complètement opposé au sommet avec Dieu, un contraste dans ce monde qui est sans foi. Mais refuser de servir ou servir avec un mauvais cœur, sous prétexte, pardon, que ça va servir à rien, ce que je vais faire, eh bien, c'est être aussi incrédule. Et c'est aussi de foi, avec laquelle nous sommes édifiés, fortifiés, ben elle doit produire du fruit dans la vallée. La patience, la persévérance, la tempérance, la charité, l'humilité. C'est pas au sommet de la montagne que ça vaut quelque chose. C'est dans la vallée qu'elle prend toute sa valeur et toute son importance et que tout cela devient précieux. Et donc, pour servir un monde en conflit, en souffrance, angoissé, critiqueur, nous avons besoin de beaucoup de foi et beaucoup de ce qu'elle doit développer en chacun de nous. Donc, mes bien-aimés, je vous laisse avec ces paroles. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne grâce. Nous enseigne également. Je pense que c'est important de se mettre entre les mains du Seigneur et se dire, est-ce que vraiment j'ai la bonne attitude? Est-ce que vraiment j'ai le cœur comme le Seigneur, face à un monde laid, face à un monde qui est ruiné, face à un monde qui est brisé, qui est en conflit, qui est constamment en querelle, un monde qui est divisé, un monde qui est en souffrance, qui est en détresse, un monde qui est angoissé, un monde qui est oppressé, un monde qui est porteur de tellement de jugements, un monde qui est incrédule. Suis-je prêt à servir Dieu et à servir le monde et à servir l'Église, même si c'est tellement le contraste avec la présence de Dieu? Voyez, on ne peut pas rester au sommet tout le temps. Il faut descendre parce que le service a lieu en bas. Donc que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide à avoir le bon cœur et à avoir la réponse pour ce monde qui est en grand besoin. C'est pour ça que Dieu compte sur vous. Dieu compte sur moi dans cette génération-ci pour apporter ce qu'on a au sommet, de l'apporter avec un bon cœur dans ce monde qui en a tellement besoin. On va prier. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole, Seigneur, pour l'enseignement, Seigneur, d'elle. Tellement de choses qu'on peut étudier, découvrir, Seigneur, et rechercher. Mais juste en toi, Seigneur, nous avons la réponse. Je te demande, Seigneur, de nous aider à avoir la foi, à ne pas être incrédule devant, Seigneur, la condition de ce monde, mais d'y aller avec foi, avec amour. Seigneur, si tu as besoin de toucher notre foi, si tu as besoin de toucher notre cœur, et que nous revisions la foi et l'amour, Seigneur. Oh Jésus, agis, touche nos cœurs. Parce que, Seigneur, on ne peut pas être incrédule. Oh, on ne peut pas être défaitiste, Seigneur. On ne peut pas aller dans le monde et servir avec une attitude défaitiste et incrédule. Loin de nous, Seigneur, d'avoir ce cœur, cette pensée, cette attitude. Je te demande, Seigneur, de nous fortifier et, Seigneur, de nous aider à vivre cette transformation, de sorte que nous puissions servir ce monde comme toi tu veux que nous le servions et que notre foi puisse se développer davantage. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Soyez en paix. Brillez dans ce monde. Ce monde a besoin de vous. Vous ne pouvez pas rester au sommet tout le temps. Le monde a besoin de vous et de vous avec un bon cœur, de vous avec la foi, de vous avec l'amour. Alors, je vous dis que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Shalom, à la prochaine.